Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Super Pouvoir pour tous. Je suis Gaëlle Lann et aujourd'hui on va parler des 7 étapes pour passer à autre chose. Alors je devais vous présenter aujourd'hui une manière de lâcher prise par l'auto-hypnose et puis en rédigeant je me suis un peu emmêlé les doigts, donc pour que ce soit plus clair, j'ai choisi de segmenter un peu et c'est suffisamment long comme ça, donc effectivement c'était une meilleure idée. Aujourd'hui et la prochaine fois donc on va parler du deuil. Alors le deuil c'est assez connoté fin de vie d'un proche, ce qui est vrai évidemment, hein, mais on va voir ça de manière beaucoup plus large. Le deuil c'est un processus naturel d'acceptation et de résilience, c'est-à-dire votre capacité à faire face aux situations difficiles et aux épreuves de la vie, moi que j'appelle des exercices, je trouve que ça passe mieux. Vous avez peut-être déjà eu le sentiment suite à un décès donc, mais aussi à une rupture relationnelle ou professionnelle, que c'était justement la fin de votre vie. Alors c'est ma vie est foutue, qu'est-ce que je vais devenir, à quoi bon? Vous vous retrouvez dans une sorte de fatalité, violente la plupart du temps, hein, et en tout cas difficile à accepter, mais encore une fois, s'opposer à ça ne changera rien. Vous êtes à une étape de vie, ici un moment important, pénible à gérer, quelle qu'en soit l'intensité, on vous retire un amour, une situation, vous allez devoir passer à autre chose, vivre autre chose, et vu d'ici, ça paraît non seulement impossible, mais surtout pour l'instant, inenvisageable. Et j'ai tenu à faire cet article parce que quand on perd tout espoir d'être heureux un jour, que ça dure une semaine ou des mois, ça peut aider de savoir que cette perte d'espoir, c'est une étape normale du processus d'évolution dans lequel on est, et que justement, c'est pas la dernière étape. Et avoir connaissance de ces étapes aujourd'hui, ça ne m'empêche pas encore de ne plus souffrir, parce que figurez-vous que c'est possible. Mais en attendant, je m'entraîne à rebondir de mieux en mieux et j'espère que cet article vous y aidera. Donc les 7 étapes du deuil. On va voir là comment peut se dérouler le processus d'acceptation d'une séparation, donc qu'elle fasse suite à un décès, une rupture amoureuse ou amicale ou autre, ou encore un licenciement. Je dis peut se dérouler parce que évidemment chacun est unique et les choses ne sont pas aussi linéaires pour tout le monde. Et d'ailleurs on peut faire des allers-retours entre ces étapes plutôt que de passer de l'une à l'autre. L'effet de yo-yo il n'est pas toujours agréable, il est un peu désespérant quand ça va pas dans le sens qu'on veut, mais il montre que le travail est en cours et que vous allez retrouver petit à petit la stabilité, donc il est plus encourageant qu'il en a l'air, faut juste le voir du bon côté. Première étape donc, le choc, la sidération, le déni. Là, vous venez d'apprendre une nouvelle brutale qui va en un instant vous faire passer d'une réalité à une autre. Donc au début, vous niez les faits, vous rejetez l'information, vous n'y croyez pas. Vous réagissez pas vraiment, vous ressentez pas grand-chose, au point peut-être même d'être un peu comme anesthésié. Vous continuez à agir comme si de rien n'était. Et vous pouvez vous dire à ce moment-là, tiens, c'est bizarre, il se passe ça et ça me fait rien. Alors vous vous demandez si vous êtes normal parce que la logique voudrait que vous vous effondriez, ça vient plus tard. Dans les ruptures amoureuses, on se dit que c'est une pause ou que l'autre va revenir. En tout cas, au début, c'est un mécanisme de défense qui vous protège momentanément d'une vérité trop difficile à accepter, d'une situation difficile à gérer. La deuxième étape, c'est la colère. Donc là, place au sentiment d'injustice, au comment est-ce qu'un truc pareil a pu m'arriver, ou comment elle a pu me faire ça. Place aussi au c'est ma faute, à la culpabilité, mais aussi au c'est ta faute, adressée à une tierce personne ou à celle qui s'en va. On peut être en colère contre quelqu'un qui aurait pu s'en sortir s'il n'avait pas négligé sa santé, par exemple, et puis c'est le moment où vous trouvez que votre ex est un con. Ici, vous vous confrontez aux faits, à l'impossibilité de revenir en arrière, et vous les refusez aussi, mais consciemment cette fois. Culturellement, les femmes sont moins autorisées à se mettre en colère, c'est pas joli, comme les hommes sont moins autorisés à être tristes, c'est faible. Donc attention aux émotions réprimées inconsciemment, si vous n'êtes pas en colère, posez-vous cette question au cas où. Je pense que je ferai un article plus complet pour expliquer ça. Troisième étape, la recherche. On parle aussi dans cette étape de négociation ou de marchandage, moi ça me parlait qu'à moitié, donc j'ai préféré ce terme-là. Ici, vous cherchez à prolonger le lien, à reprendre contact avec la personne qui est partie, à vous remettre dans la situation dans laquelle vous étiez, vous promettez de changer. Alors, est-ce que vous êtes réaliste là-dessus? Est-ce que c'est aussi pour la bonne raison? Vous cherchez à récupérer votre ex ou alors juste à vous venger? Rappelez-vous que vous n'avez de pouvoir que sur 50% d'une relation, et ces 50% c'est les vôtres. Vous cherchez aussi les signes de présence en interprétant ce que vous voyez, ce que vous entendez ou ressentez. Alors, je suis personne pour contester les signes de l'au-delà, hein. Vous allez vous accrocher à vos repères, qui peuvent être des messages, des objets ou des lieux. C'est une phase où on peut être très vulnérable, donc faute de faire preuve de recul et de discernement vis-à-vis des gens manipulateurs ou de je sais pas quel charlatan, faites attention à vous et choisissez bien les personnes à qui vous vous adressez. L'étape 4, c'est la tristesse, la douleur. Alors c'est probablement la plus difficile. Là, vous vous demandez ce que vous allez devenir, c'est le syndrome de ma vie est foutue, le désespoir. Vous reconnaissez les faits, ils sont là. Ils sont désespérants et vous êtes toujours tourné vers le passé, ni le présent ni le futur n'ayant quoi que ce soit d'un temps soit un peu plaisant à offrir. Mais il arrive souvent que, bah, par contraste, l'objet de la perte soit idéalisé. Du coup, les perceptions, elles sont faussées et ça en rajoute une couche. Et comme je disais dans l'étape 2, la colère, non seulement vous avez le droit d'être profondément triste, mais aussi celui de le manifester. Vous pouvez ressentir de la tristesse dès le début, mais il y a des chances pour que la vraie tristesse, elle arrive plus tard, donc à ce moment-là. Beaucoup de gens cherchent à fuir cette phase en se changeant les idées, en faisant plein de sorties et activités. Je veux pas dire c'est bien ou c'est pas bien, ça soulage sur le moment, mais ça règle pas les choses. Vous allez de toute façon devoir passer par là, parce qu'une émotion, ça ne se digère pas, mais ça se traverse, aussi douloureuse qu'elle soit. Parce que passer à l'étape d'après en changeant de chemin, ça a peu de chances de fonctionner. Et là où la colère, bien que désagréable, elle donne de l'énergie, la tristesse, elle en prend. Donc vous n'avez plus goût à rien, vous vous traînez, vous déprimez, vous êtes passif, et bah, malheureusement, certaines personnes restent bloquées à ce stade. Ce qui est évidemment fort dommage, puisque la cinquième étape, c'est la résignation, et c'est ici que commence la pente ascendante parce que vous arrêtez de lutter. Vous comprenez, dans le sens d'en faire l'expérience, que le passé est passé, que ce bonheur-là est terminé. Vous avez tout fait pour le retrouver, mais ça n'a pas marché, donc vous abandonnez en vous disant que bah, c'est moche, mais c'est comme ça. Sauf que là, ça vous fait une belle jambe parce qu'en attendant, le présent et le futur n'ont toujours pas grand intérêt. Mais en laissant le passé au passé, vous vous offrez la possibilité d'avancer, et ça, c'est un point très positif. Ensuite, la sixième étape, c'est l'acceptation. Là, il commence à y avoir un peu de lumière, donc vous pouvez toujours être triste en pensant à tout ça, mais de moins en moins, et vous allez amorcer votre retour à la vie. Vous acceptez cet événement comme faisant partie de votre vie, en fait, qui va l'enrichir à sa manière. Aussi, vous remettez les choses à leur place, vous cessez d'idéaliser ce que vous avez perdu, si c'était le cas. Et comme vous arrivez à la fin du processus, vous devenez aussi capable de reconnaître les apprentissages que vous avez faits par le chemin que vous avez parcouru. Ça vous fait donc quelque chose de gagné, et même si c'est pas équivalent à votre perte, et d'ailleurs même parfois c'est supérieur, hein, un point positif dans toute cette histoire, ça fait quand même du bien. On arrive à la fin avec l'étape 7 qui est la reconstruction. Là, vous faites le point sur ce que vous avez vécu et vous allez de l'avant. Alors, vous n'oubliez rien ni personne, c'est juste que vous intégrez cette période à votre histoire et vous apprenez, à travers ça, à mieux vous connaître pour mieux continuer de vous construire. Vous allez non seulement devenir actif et vous réorganiser en reprenant confiance en vous, mais également bah, construire une nouvelle base. Donc ça va être le moment de régler ces problématiques de rejet, d'abandon, ces rancœurs, en tout cas d'enlever le terrain un peu vaseux pour donner une chance à la suite d'être plus solide et plus épanouissante, tout en gardant vos bons souvenirs, évidemment. Donc vous allez non seulement faire le ménage chez vous, mais aussi chercher à développer les ressources qui vous intéressent, que ce soit par exemple votre estime personnelle, ou votre physique, ou votre santé, votre état d'esprit par rapport au travail ou aux relations, à la vie en général. Vous allez tout simplement vous reprendre en main pour vous donner la possibilité d'ouvrir des nouvelles portes. Et vous pouvez même, en un sens, remercier ce qui vous est arrivé pour le chemin sur lequel ça vous a amené. Il y a plein de gens qui ont des coups durs comme ça et qui en fait sont des tremplins pour quelque chose de beaucoup plus intéressant pour eux. Donc voilà pour ce processus-là. Maintenant, on va parler brièvement des trois types de deuil. La durée d'un deuil, elle varie d'une personne à l'autre, hein, évidemment, mais on distingue trois façons de le vivre que je vous donne à titre indicatif, comme beaucoup de choses. Premièrement, on a le deuil normal. Il se fait en moins d'un an en général, donc on a une semaine pour l'étape choc et déni. Ensuite, jusqu'à 6 mois va durer de la phase colère à la phase tristesse. et puis jusqu'à un an de la phase résignation à reconstruction. Ensuite, on a le deuil compliqué. Dans le deuil absent, on est bloqué à la phase de déni. Dans le deuil intensifié, on se sent vraiment submergé par toutes ces manifestations émotionnelles. Et dans le deuil inachevé, on est bloqué au stade de la tristesse qui se prolonge du coup au-delà de 6 à 12 mois habituels. On peut aussi continuer de ressentir de la douleur dans les dates d'anniversaire par exemple, ou encore refuser de se réinvestir dans une situation nouvelle qui rappellerait l'ancienne. Et puis on a le deuil pathologique, donc là on parle de troubles psychiatriques apparus à la suite de l'événement ou de la perte en général. Ce sont des troubles anxieux ou dépressifs, différents du syndrome dépressif de la phase de la tristesse. Hein. Et puis l'hypnose dans tout ça, hein, on y vient. Je continue un peu mon super teasing parce qu'on parlera vraiment de tout ça dans le prochain article avec une technique que vous pourrez faire seul ou en cabinet, selon vos capacités, l'intensité de vos émotions et puis vos facilités et difficultés évidemment. Mais en gros, vous allez pouvoir y avoir recours comme accompagnement, comme la majorité des problématiques émotionnelles. Alors c'est important de noter que ça sert pas à grand chose d'aller voir un praticien tout de suite. Il y a un temps pour tout, et je dirais qu'avant l'étape 4 de la tristesse, je suis pas sûre que les séances elles soient productives. Maintenant, comme toujours, tout dépend de votre situation et de ce que ça éveille chez vous, hein. Évidemment, on n'empêchera personne de trouver du réconfort et un support pour traverser cette période. Le deuil, c'est un processus naturel qui n'a pas de durée établie et dont la longueur ne se juge pas. C'est une petite blessure pas encore guérie qui parle. Un accompagnement pourra donc vous aider si vous vous sentez bloqué quelque part, mais il y a certaines choses à vivre que ça sert à rien de précipiter. Alors acceptez votre rythme, observez-le, observez-vous, apprenez et maintenez le cap jusqu'à l'étape 7, voilà, vous savez qu'elle est là, et tout se passera bien. Pour vous préparer à la technique d'hypnose pour faire le deuil, eh bien je vous invite à télécharger le pack auto-hypnose et CMP3, donc en bas de la page où vous le trouverez un peu partout sur le blog. Vous verrez la semaine prochaine que cette technique elle est utile dans plein de situations, en dehors de celles dont il est question dans cet article, donc ça va être vraiment quelque chose de très utile à apprendre, ou en tout cas à expérimenter si vous le faites accompagner. Donc partagez cet article pour répandre la lumière si vous l'avez apprécié. Moi je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais plein de bisous, salut !